Bonjour, mes frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de vous revoir tous. Si vous ne pouviez en choisir qu'une seule, laquelle choisiriez-vous? La connaissance, la compréhension ou la sagesse? Vous ne pouvez en choisir qu'une. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que les trois sont importantes, mais si vous ne pouviez en choisir qu'une, laquelle préféreriez-vous? Si je faisais le tour de la salle, certains d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous, répondraient probablement la connaissance. Sans la connaissance, les deux autres sont pratiquement sans importance. Elles n'ont pas vraiment de sens. Il faut avoir la connaissance. D'autres d'entre vous choisiraient peut-être la compréhension, car vous reconnaissez qu'elle est plus profonde. Bien plus profonde que le simple fait d'avoir des connaissances et de savoir des choses. Certains choisiraient peut-être la compréhension. Mais la majorité d'entre vous, connaissant mon auditoire, la majorité d'entre vous choisiraient probablement la sagesse. Car vous savez, vous comprenez que la sagesse est le but ultime. Qui ne souhaite pas être sage? Et, bien sûr, les Écritures parlent beaucoup de la sagesse. Ainsi, certains pourraient choisir la connaissance, d'autres la compréhension, et beaucoup choisiraient probablement la sagesse. Mais mes frères, ce n'est pas une question biblique. Choisir entre la connaissance, la sagesse ou la compréhension n'est pas une question biblique. En réalité, ce n'est pas la bonne question. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne nous dit de n'en choisir qu'une seule. Il ne dit jamais, choisis l'une d'entre elles et ne te soucie pas des autres. Dieu ne dit jamais cela dans sa parole. En réalité, il nous présente la connaissance, la sagesse et la compréhension comme des éléments que nous devons posséder tous ensemble. Nous devons les posséder tous les trois. Or, cette idée d'avoir la connaissance, la sagesse et l'intelligence, d'avoir les trois, est toujours un sujet important, mais elle est vraiment importante en ce moment. Nous venons de passer les jours des pains sans levain et ce fut une période d'introspection. Nous nous sommes examinés, nous avons fait le travail, nous avons éliminé le péché de nos vies, le levain physique qui représente le péché. Et nous avons passé en revue la liste de contrôle et nous avons travaillé sur nous-mêmes, bien sûr, en éliminant le péché de nos vies. Nous faisons cela toute l'année, mais nous nous y sommes vraiment concentrés à cette période de l'année. Et Dieu, à la suite de cela, y compris la Pâque et tout ce qu'elle implique, nous a donné une ardoise vierge. Nous avons en quelque sorte tout ramené à la base. Tout est pur. Dieu nous a donné une ardoise vierge pour repartir à zéro. C'est une rampe de lancement d'où nous pouvons désormais aller de l'avant, et c'est un nouveau départ. Dieu a donc tout mis en place. Il a fait sa part. Il a œuvré avec nous et à travers nous pour que nous fassions la nôtre. Et frères, c'est maintenant le moment de construire. C'est maintenant le moment de prendre ce que Dieu a fait. Ce que nous avons fait. Nous avons une ardoise vierge et il est temps d'aller de l'avant, il est temps de construire. Il est temps de nous concentrer sur ces fondations claires et propres que Dieu a posées. Et nous voulons construire quelque chose. Nous voulons construire quelque chose, frères, qui va durer. Quelque chose qui durera toute l'année pour nous aider à traverser toutes les épreuves auxquelles nous serons confrontés dans les mois, les jours, les semaines et les mois à venir, tout au long de l'année, et jusqu'à la prochaine Pâque. La Bible nous montre que nous sommes appelés à acquérir la connaissance, la compréhension et la sagesse. Et aujourd'hui, nous allons examiner le fait qu'un chrétien a besoin de ces trois éléments. Comme je l'ai expliqué, un chrétien a besoin de ces trois éléments et Dieu attend de nous que nous allions les acquérir. Ce terme, acquérir, prendra toute son importance plus tard. Or, comme je l'ai mentionné, Dieu donne la connaissance, il donne la compréhension, et il donne la sagesse. Dieu nous les donne, mais, mes frères, notre travail consiste à les développer. Ouvrez vos Bibles au chapitre 2 du livre des Proverbes. Le chapitre 2 des Proverbes. Nous allons passer beaucoup de temps sur les Proverbes, en particulier le chapitre 2. Il y a des chapitres très importants dans le livre des Proverbes. C'est un livre fascinant. C'est un livre de proverbes qui s'adresse à ses lecteurs un peu comme un père s'adresserait à ses fils. J'ai parlé des proverbes à mes fils. Beaucoup de parents l'ont probablement fait avec leurs fils ou leurs filles, et utilisent sans doute ce livre pour eux-mêmes. Nous allons passer beaucoup de temps dans les proverbes. En fait, vous voudrez peut-être mettre un marque-page au chapitre 2 des proverbes. Mais ce chapitre, le chapitre 2 des Proverbes, constitue véritablement le fondement de ce que nous allons aborder. Dans le chapitre 2 des Proverbes, vous verrez les deux premiers mots. Il est écrit « Mon fils ». Nous voyons donc que le destinataire est un fils. C'est une personne jeune, et mon fils vient clairement d'un parent. Dans ce cas, un père, une mère. Mais cela commence par « mon fils ». Imaginez maintenant que ce message s'adresse à un nouveau chrétien, quelqu'un de jeune, qui vient d'entrer dans la foi. Mais je dirais aussi, frère, un nouveau chrétien qui sort de la Pâque. Encore une fois, nous avons cette page blanche sur laquelle nous travaillons. C'est un nouveau départ. C'est le printemps. Nous pensons à tout ce que cela implique. Nous avons donc ce nouveau chrétien. Que vous soyez nouveau dans la foi ou que vous marchiez avec Dieu depuis plus de 50 ans ou depuis longtemps, c'est toujours un nouveau chrétien qui vient de célébrer la Pâque. Nous pouvons tous certainement apprendre des choses. Ainsi, mon fils est la façon dont cela commence. En lisant le verset 1, mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes mes commandements en toi, nous allons lire un peu plus loin, afin que tu prêtes l'oreille à la sagesse et que tu appliques ton cœur à la compréhension. Et si tu cries vers la connaissance? Nous voyons donc déjà qu'il faut prêter l'oreille à la sagesse, appliquer son cœur à la compréhension et crier vers la connaissance. Continuons, et si tu élèves ta voix pour la compréhension, si tu la cherches comme de l'argent et la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous voyons donc ici de nombreux verbes d'action. Et cela nous amène à ce que dit le verset 5. Alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, il y a très peu de garanties dans la vie, mais celle-ci est une garantie. Il est dit que si vous faites les choses mentionnées au début du chapitre, vous comprendrez la crainte du Seigneur. Quelle est l'importance de la crainte du Seigneur? Elle est très importante. Et vous trouverez la connaissance de Dieu. Le succès vous est garanti. Peu de choses dans la vie sont garanties, mais nous venons de lire une garantie. Mais remarquez l'action dans ces versets. Il est dit, pour recevoir mes paroles, cachez mes commandements, inclinez votre oreille, appliquez votre cœur, criez, élevez votre voix, cherchez comme on cherche l'argent. Ce n'est pas une situation passive, frère. C'est un langage très orienté vers l'action. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement, l'acquisition de la connaissance, de la compréhension et de la sagesse. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous restons passivement assis, nous nous asseyons dans l'église de Dieu, nous venons sabbat après sabbat, nous écoutons sermon après sermon, nous faisons le minimum, nous lisons des articles, nous faisons les gestes habituels. Frères et sœurs, au contraire, ce dont je parle exige un effort intentionnel. Il y en a certains, j'oserais dire depuis des décennies, qui sont peut-être sur le chemin de Dieu depuis de très nombreuses années sans pour autant mettre en pratique ce que je viens de lire. Ils ne prêtent pas l'oreille à la sagesse, n'appliquent pas leur cœur à la compréhension, ne recherchent pas la connaissance avec ardeur, ni n'élèvent la voix pour la comprendre, ne la recherchant pas comme de l'argent et ne la cherchant pas comme des trésors cachés. Il est possible de s'asseoir dans l'Église de Dieu sur les nombreux bancs à travers le monde. Beaucoup l'ont prouvé au fil des décennies. Il est possible de s'asseoir sans rien faire de tout cela et, malheureusement, de ne pas comprendre la crainte du Seigneur ni trouver la connaissance de Dieu. Ouvrez Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. La Bible excelle à brosser un tableau, nous donnant une image claire de l'urgence dont nous devons faire preuve. Veuillez garder votre marque-page dans Proverbes chapitre 2, comme je l'ai mentionné, mais dans Matthieu chapitre 13, nous allons lire le verset 44. Matthieu chapitre 13, 44. Il est dit, de même, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Or, nous savons tous ce qu'est un trésor. On pense à de l'or, à des pièces de monnaie, à de l'argent ou à un métal précieux quelconque, mais quelque chose de très précieux, et pourtant, cela est comparé au royaume de Dieu, comparé à un trésor caché dans un champ, et quand un homme a trouvé ce trésor, il le cache. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dieu, dans ce cas, en parlant du royaume, nous montre qu'il faut le rechercher activement. Il faut le rechercher comme quelque chose de précieux. Vous entendez parler du royaume de Dieu. Oh, c'est précieux. Eh bien, d'accord. Nous comprenons que le royaume de Dieu est précieux, mais le royaume des cieux, dans ce cas, tel qu'il est expliqué, mais, frères, agissons-nous de cette manière? Nos actions reflètent-elles cette valeur? J'ai choisi ce verset parce que c'est une excellente comparaison. Nous avons ici une personne qui a identifié ce trésor dans un champ et qui vend tout ce qu'il possède afin de pouvoir l'obtenir. C'est très, très important pour lui. C'est une excellente comparaison car elle montre que, dans ce cas, le royaume des cieux, mais aussi la connaissance, la compréhension et la sagesse, doivent être activement recherchés comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Quand on comprend que cela est lié à la crainte de Dieu et au succès ultime, mes frères, c'est facile à faire. Parfois, on lit des choses dans les Écritures et cela semble un peu lointain, mais transposons cela dans notre quotidien. Et si je vous disais qu'il y a 3 millions de dollars qui vous attendent? C'est à Los Angeles, en Californie. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, cela peut être très loin ou vraiment, vraiment, vraiment très loin, mais c'est à Los Angeles. C'est dans une banque et il y a un chèque à votre nom de 3 millions de dollars. Maintenant, tout ce que vous avez à faire pour obtenir cet argent, c'est de vous rendre à LA. Que feriez-vous? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, je remuerai ciel et terre pour aller chercher ce chèque. C'est mon argent. Il m'appartient. On me l'a dit. On me l'a promis, mais je dois juste aller le chercher. Je remuerai ciel et terre et ferai tout ce qu'il faut pour y arriver. Je ne me contenterai pas de rester là à ruminer cette information. Oh, c'est sympa. Ce chèque est là. Oui, je l'irai chercher quand j'aurai le temps. Peut-être que certains d'entre vous sont bien plus disciplinés que moi et peuvent se contenter de ruminer cette information sans rien faire. Eh bien, mes frères, je n'en suis pas encore à ce niveau de spiritualité, petit rire. J'ai besoin de cet argent. Je ferai tout ce qu'il faut pour aller chercher ce chèque, car il m'appartient, car j'y tiens. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Je dépenserai même de l'argent, un billet d'avion, un Uber pour me rendre à la banque, une chambre d'hôtel si je devais passer la nuit sur place. Je ferai tout ce qu'il faut pour aller chercher ce chèque. Vous voyez où je veux en venir. Revenons au proverbe, mais cette fois-ci, allons au chapitre 4. Proverbe, chapitre 4. Frères et sœurs, quelle valeur accordons-nous à la connaissance, à la sagesse et à la compréhension? Proverbe, chapitre 4. Commençons au verset 5. Proverbe, chapitre 4, verset 5. Acquiert la sagesse, l'intelligence. N'oublie pas cela, et ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. Il est donc dit ici d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence, et la connaissance est sous-entendue, mais cela nous dit d'acquérir ces deux choses. Or, ce mot « acquérir », c'est un mot très, très important, surtout pour ce message. Acquérir signifie ici « ériger » ou « créer ». Ériger ou créer. Vous remarquez que j'ai parlé de « construire ». J'ai commencé à parler de construction dès le début du message. Nous devons créer ou ériger, ou, pour employer un mot qui nous est familier à tous, construire la connaissance, la compréhension et la sagesse. À quel point cela est-il important, frères, à la sortie des jours saints du printemps? Nous avons cette page blanche. Nous avons ce fondement qui a été balayé, prêt à aller de l'avant dans l'année. Il est temps de construire. Ce n'est pas le moment de se reposer spirituellement. Ah, mes péchés ont été pardonnés. Nous venons de passer par l'exercice. Nous avons pris les symboles. Maintenant, il est temps de se détendre. Tout est revenu à la normale. Frères et sœurs, c'est tout le contraire. C'est maintenant qu'il faut construire. C'est maintenant qu'il faut aller de l'avant. Ce n'est pas le moment de se reposer spirituellement. Matthieu 7. Matthieu, chapitre 7. Une illustration familière ici. Matthieu 7. Reprenons au verset 24. Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc entendre et faire, je le compare à un homme avisé. C'est intéressant. Un homme avisé qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Qu'est-ce que le roc? Qui est le roc? Jésus-Christ, ses paroles. Ainsi, cet homme avisé a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Le fondement, frère, c'est Christ et les apôtres, les prophètes. Le fondement est établi. Christ et ses paroles sont le roc. Dieu attend de nous que nous bâtissions sur cela. Dans ce cas, nous devons bâtir la connaissance, la compréhension et la sagesse. Frères et sœurs, nous devons aller les chercher. Nous devons aller chercher la sagesse, la compréhension et la connaissance. Nous devons nous y mettre. Vous avez tous entendu l'expression « se mettre au travail ». C'est maintenant le moment de se mettre au travail. Ce n'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers. Ce n'est pas le moment de se la couler douce, de se mettre les pieds en l'air, de croiser les bras, de joindre les mains derrière la tête et de se détendre. C'est maintenant le moment de se mettre au travail. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Si cela ressemble à un message de motivation, frère, c'en est un. C'est un message de motivation. Mon travail, mon objectif, c'est de vous motiver. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, pourquoi? Car les jours sont mauvais. Frères et sœurs, les jours sont mauvais. Les ténèbres nous entourent. Des bonnes choses se produisent-elles? Bien sûr. Vous pouvez regarder autour de vous et, dans certains cas, tout peut sembler normal, mais si vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un regard perspicace, vous pouvez voir, mes frères, que les jours sont mauvais. Il y a urgence. C'est maintenant qu'il faut racheter. Nous devons racheter ce temps. Sauver, ce terme, racheter, signifie racheter ou sauver. Nous devons sauver ou rattraper le temps perdu. L'horloge tourne. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est maintenant qu'il faut faire quoi? Se mettre au travail. Développer la connaissance, la compréhension et la sagesse. On entend sans cesse parler de connaissance, de compréhension et de sagesse. Ce sont en fait des termes assez simples. Nous savons ce qu'ils signifient, mais rafraîchissons-nous la mémoire en revenant au chapitre 2 du livre des Proverbes. Proverbe 2. Proverbe 2, verset 6, vers la fin, il est dit, « De sa bouche, en parlant du Seigneur, vient la connaissance. » La connaissance vient donc de la bouche de Dieu. La connaissance, c'est ce que vous savez. La connaissance, ce sont les faits. Ce sont les informations. Juste les faits, madame. Vous avez tous déjà entendu cela. Juste les faits, madame. Qu'est-ce que la connaissance? Ce sont les données. Ce sont les faits. Ce sont les informations. À bien des égards, la connaissance est neutre. Elle ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Ce ne sont que les faits. Ce sont simplement ce qu'ils sont. Un exemple concret serait la conduite automobile. La plupart d'entre nous savent conduire ou ont certainement déjà pris place dans une voiture. Nous savons ce qu'est la conduite. La connaissance, c'est connaître le code de la route, savoir ce qu'est un panneau stop, ce qu'est un panneau de limitation de vitesse, les panneaux indiquant la priorité. Mes frères, si nous ne savons pas ce qu'est un panneau stop, un feu rouge ou un panneau céder le passage, si nous ne savons pas ce que sont ces choses, si nous n'avons pas la connaissance de ce qu'elles sont, nous sommes en difficulté. Mes frères, savoir ce qu'est un panneau stop n'est pas réellement conduire. Savoir qu'un feu vert signifie avancer et qu'un feu rouge signifie arrêtez-vous, ce n'est pas réellement conduire. Ce n'est que de la connaissance. C'est très important, mais ce ne sont que des informations. Vous pouvez très bien connaître le code de la route. Vous pouvez connaître toutes ces règles que j'ai mentionnées et toutes celles qui figurent dans un. Si vous avez déjà passé un examen de conduite, vous devez vous préparer. Il y a un gros livre bien épais. De nos jours, il y a un programme informatique qu'il faut suivre. Vous pouvez posséder toutes ces connaissances sans jamais conduire de votre vie, mais cela n'enlève rien à leur importance. Ces connaissances sont très, très importantes. C'est un exemple concret. Mais, mes frères, spirituellement parlant, la connaissance, ce sont des faits ou des informations qui viennent de Dieu. C'est ce que Dieu dit, ce que Dieu dit. Le verset dit que la connaissance sort de la bouche de Dieu. Ce sont les informations ou les faits que Dieu nous a donnés. Jean 17. Jean 17, verset 17. C'est Christ qui parle. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La connaissance, mes frères, la connaissance spirituelle, c'est la vérité ou les vérités de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Souvenez-vous, la connaissance sort de sa bouche. Ce sont les faits spirituels, les principes spirituels, les instructions spirituelles qui proviennent de la parole de Dieu. C'est crucial. Il est crucial pour nous d'avoir la connaissance de Dieu, les faits, les informations, les principes qui proviennent de Dieu. Sinon, nous sommes en difficulté. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, nous sommes en difficulté. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Je vais le répéter. Mon peuple, mon peuple. C'est Dieu qui parle de son peuple. C'est un public plus restreint. Nous sommes le peuple de Dieu. Prenez cela à cœur, frère. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Ce n'est pas que la connaissance n'était pas accessible. Elle a été rejetée. La connaissance était là, à la disposition du peuple. Ils l'ont rejetée. Frères et sœurs, la connaissance est là, à notre disposition. La rejetons-nous? Le manque de connaissance, frères, peut nous détruire. Si nous n'avons pas de connaissance spirituelle, frères, cela peut nous détruire. Mais devinez quoi? Si nous n'avons pas de connaissance physique, cela pourrait nous détruire. Revenons à la conduite. Vous conduisez un véhicule de 2 tonnes, vous roulez à toute vitesse sur l'autoroute. Et si vous n'avez aucune idée des règles de conduite, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne vous tuiez ou ne blessiez quelqu'un d'autre, ou ne vous blessiez vous-même ou ne blessiez d'autres personnes. Frères et sœurs, le manque de connaissances peut nous détruire. Le manque de connaissances physiques peut nous détruire, mais en fin de compte, le manque de connaissances spirituelles peut nous détruire éternellement. La connaissance est essentielle. Si nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous, si nous ne disposons pas de l'information, comment pouvons-nous y obéir? Si nous ne savons pas que Dieu nous demande de respecter le sabbat, comment pouvons-nous le respecter? Nous n'en savons même rien. Si nous ne savons pas que Dieu dit qu'il ne faut pas manger de porc, comment pouvons-nous obéir? Nous devons avoir la connaissance. Nous devons avoir l'information. Ignorer les vérités ou la connaissance de Dieu, mes frères, nous rend spirituellement ignorants. Vous entendez ce mot, ignorant, c'est un mot qui choque, mais ignorant signifie simplement sans connaissance. Si nous n'avons pas ou ne connaissons pas les choses de Dieu, la connaissance de Dieu, cela nous rend spirituellement ignorants. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de réussir. Dieu veut que nous le connaissions ou que nous ayons la connaissance de lui et de ce qu'il dit. Une fois que nous savons ce que Dieu dit, c'est à nous de décider d'y obéir ou non, mais cela commence par la connaissance. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous savez quelque chose que vous le comprenez. Vous pourriez avoir beaucoup de connaissances, mais si vous ne comprenez pas ces connaissances, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas efficace. Revenons au chapitre 2 des Proverbes. Revenons au chapitre 2 des Proverbes. Reprenons ici, Proverbe 2. Remarquez ce qui est dit dans Proverbe 2, « Applique ton cœur à la compréhension. » Verset 3, « Élevez votre voix pour la compréhension. » Verset 5, « Alors vous comprendrez la crainte du Seigneur. » La compréhension, frère, est vitale. Oui, la connaissance est importante, je viens de l'expliquer, mais la compréhension est vitale. Sans compréhension, la connaissance, à bien des égards, est inutile. Comprendre, c'est être intelligent. On a tous entendu ce terme, intelligent. Oh, il est intelligent. Il est malin. Il comprend tout. C'est un génie dans certains cas. Comprendre, c'est être intelligent. Certaines personnes ont plein de faits en tête, mais elles manquent d'intelligence. Elle manque de compréhension. Comprendre, c'est savoir pourquoi la connaissance est importante, comment tous les faits s'articulent entre eux. Ça donne un sens à l'information. Ce n'est pas juste un tas de faits. D'accord. Je sais qu'il faut s'arrêter à un panneau stop. C'est un fait, mais comprenez-vous pourquoi? La compréhension établit le lien avec la connaissance, la façon dont tout s'articule. J'ai mentionné le fait de savoir ce qu'est un panneau stop. Eh bien, c'est de la connaissance, mais la compréhension, c'est un autre niveau. C'est un niveau plus profond. Eh bien, la raison pour laquelle je m'arrête à un panneau stop, à un carrefour, c'est pour la fluidité du trafic, afin que les gens puissent entrer et sortir d'un carrefour en toute sécurité. J'utilise ici une analogie très simple, mes frères, une illustration très simple, mais c'est parce que je veux que nous comprenions l'essence de la connaissance et de la compréhension. Mais la compréhension, c'est avoir l'intelligence de faire le lien. Oh, je dois m'arrêter complètement à ce carrefour parce que la personne suivante doit pouvoir passer. Je dois pouvoir compter sur le fait que si je m'arrête, la personne suivante sait qu'elle doit s'arrêter, et ainsi je peux me rendre à ma destination et en revenir en toute sécurité. Je peux avoir la connaissance. D'accord, je sais que je suis censé m'arrêter à un carrefour, mais juste parce que j'ai la connaissance et que je ne comprends pas pourquoi, oui, je sais que j'étais censé m'arrêter, mais je passe quand même. Je pourrais me jeter directement dans la circulation. Oui, je savais qu'il fallait s'arrêter. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Et je me jette dans la circulation et je me blesse ou je blesse quelqu'un d'autre. La compréhension, c'est savoir pourquoi les règles existent. Cela nous emmène au-delà de la simple interprétation et compréhension, dans le cas de mon exemple, de ce que signifient les panneaux de signalisation. Mais plus important encore, la compréhension spirituelle fait la même chose. Elle aborde la raison pour laquelle Dieu nous dit de faire et de ne pas faire certaines choses. Proverbe chapitre 2, passons au verset 9. Il est écrit, « Alors tu comprendras la justice, et, j'ajouterai, tu comprendras le jugement, tu comprendras l'équité, oui, toute bonne voie. » Frères et sœurs, Dieu veut que nous comprenions la justice, que nous comprenions pourquoi il nous dit de faire les choses qu'il nous demande de faire. Ce ne sont pas simplement un ensemble de règles. Le but est de comprendre pourquoi, d'établir les liens, d'avoir de l'intelligence face aux vérités de Dieu. La justice est faite de vérité. Fais ceci, ne fais pas cela. Mais la compréhension, c'est les mettre en perspective, c'est comprendre la justice. Le jugement, l'équité, repose sur l'information, mais le jugement exige de la compréhension. Pour pouvoir être équitable ou mettre les choses en perspective, il faut comprendre les liens, le pourquoi qui se cache derrière les faits. La compréhension nous aide à faire le rapprochement. Ah, c'est pour cela que Dieu nous dit de faire cela. Revenons au sabbat. Ah, c'est pour cela que Dieu nous dit de nous reposer le jour du sabbat, pour que notre corps puisse récupérer, pour que nous soyons mentalement prêts pour les 6 autres jours, et que nous puissions y consacrer toute notre énergie. Pourquoi? Parce que nous nous sommes reposés le jour du sabbat. Et oh, nous observons le sabbat. C'est le jour où nous allons nous rassembler et écouter la parole de Dieu parce que nous sommes reposés et revigorés. Il ne s'agit pas seulement du fait d'observer le sabbat, du fait d'aller aux offices, mais de comprendre pourquoi Dieu veut que nous le fassions. Nous ne voulons pas seulement savoir ce que Dieu dit, nous voulons savoir pourquoi il le dit. Et c'est là qu'intervient l'intelligence. Mais, mes frères, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est bien, mais nous ne parlons pas de l'intelligence humaine, Nous parlons de l'intelligence de Dieu. Restons ici, dans Proverbes chapitre 2, et lisons le verset 6, car c'est de l'Éternel que vient la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Remarquez qu'il est également dit que l'intelligence vient de la bouche de Dieu, pas seulement la connaissance. La compréhension de l'intelligence, les liens, viennent aussi de la bouche de Dieu. Et cela a du sens. Pourquoi? Parce que c'est son intelligence. Dieu est un être intelligent. Quand il parle, quand les choses sortent de sa bouche, elles sont intelligentes. Elles renferment la compréhension. L'intelligence de Dieu est manifestement liée à sa parole. Psaume 119. Je crois que c'est le plus long des psaumes. Psaume 119, très riche. Psaume 119, 104. Psaume 119, 104. Par tes préceptes, j'acquiers la compréhension. Par tes préceptes, dit-il, j'acquiers la compréhension. Un précepte est un mandat ou un commandement. C'est donc par les commandements de Dieu que nous acquérons la compréhension ou que nous acquérons l'intelligence. Dieu ne se contente pas de nous donner simplement les faits. Il nous explique aussi dans sa parole comment assembler ces faits. Et à mesure que nous observons les commandements de Dieu, notre intelligence s'accroît. Il est dit, « Par tes préceptes, j'acquiers l'intelligence. » Ainsi, en observant les commandements de Dieu, nous acquérons l'intelligence. Mais, mes frères, devinez quoi? Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Restons ici dans le psaume 119, passons au verset 34. Psaume 119, verset 34, « Donne-moi l'intelligence, dit-il, et je garderai ta loi. » Cela fonctionne donc aussi dans l'autre sens. À mesure que l'intelligence grandit, elle nous aide à garder la loi de Dieu plus pleinement. Ainsi, lorsque nous gardons la loi de Dieu, nous grandissons en intelligence. Et à mesure que notre intelligence s'accroît, nous gardons mieux la loi de Dieu. Cela semble presque circulaire, frère, mais c'est vraiment ainsi que l'Esprit de Dieu agit. Cela semble presque circulaire, frère, mais c'est vraiment ainsi que le processus de compréhension spirituelle se développe. C'est ainsi que nous grandissons en compréhension. Lorsque nous observons la loi de Dieu, nous gagnons en intelligence, et plus nous devenons intelligents, mieux nous sommes capables d'observer la loi de Dieu. C'est une chose très importante, frère. C'est une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mes frères, pour commencer à obéir à Dieu. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre parfaitement. Mais si vous savez que Dieu le dit, alors vous obéissez. Pourquoi? Parce que plus vous obéissez à Dieu, plus cela vous apporte de la compréhension. Et à mesure que votre compréhension s'accroît, il devient alors plus facile d'obéir à Dieu parce que vous comprenez pourquoi vous en voyez le bénéfice. Je me souviens de mes débuts à l'église. Je ne comprenais pas tout à fait pourquoi nous ne devions pas manger de porc. J'en avais mangé toute ma vie. J'allais bien. Ou alors, les problèmes que j'avais, ce n'était pas à cause de cela. Mais devinez quoi? Je ne comprenais pas, mais je l'ai fait. Et puis, quand j'ai commencé à le faire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à mieux comprendre. Ah, le cochon est un charognard. Il mange tout ce qu'on lui met sous le nez. Et maintenant que j'y pense, ce n'est pas l'animal le plus propre ni le plus appétissant. Je comprends maintenant pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas en manger. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu dit que nous ne devrions pas manger de homards, de crabes et de crevettes, Même si ce sont les plats les plus chers au menu d'un restaurant chic. Ce sont tous des animaux que Dieu n'a pas destinés à notre consommation. Mais cette compréhension, mes frères, est venue après avoir observé la loi de Dieu. Et plus je la comprends, plus il m'est facile de refuser ce sandwich BLT. Mais, mes frères, même la compréhension, en plus de la connaissance, ne suffit pas. Même cela ne suffit pas. En fin de compte, nous avons besoin de sagesse. Revenons à Proverbe 2. Proverbe 2. J'ai mentionné les viandes pures et impures. Je suis sûr qu'il y a des choses dans votre vie, dans votre cheminement chrétien, que vous ne compreniez pas pleinement, et que vous les avez faites quand même. Vous les avez faites quand même, et ensuite votre compréhension s'est accrue. Mais revenons au chapitre 2 des Proverbes, nous avons finalement besoin de sagesse, comme je l'ai mentionné. Proverbe 2 verset 2, que dit-il de faire? Prête l'oreille à la sagesse. Vous remarquez que c'est au verset 2. C'est la première chose qu'il dit. Que faire? Prête l'oreille à la sagesse. C'est ainsi que ce père s'adressait à son fils. Il est dit, prête l'oreille à la sagesse. C'était la première chose mentionnée. Frères et sœurs, ce n'est pas une coïncidence. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 7, que dit-il? La sagesse est la chose principale. Acquiert donc la sagesse. Petit rire, la sagesse, dit-il, est la chose principale. Principale signifie ici première. Première dans l'ordre. Ou pas nécessairement dans l'ordre, excusez-moi, mais première en rang. Il est donc dit qu'elle est mentionnée en premier. Elle est mentionnée en premier, mais c'est en premier par rang. C'est la chose principale. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la sagesse est-elle la chose principale? Eh bien, ce que Dieu veut dire, c'est que c'est la plus importante. C'est la principale. Maintenant, ce n'est pas exclusif. Comme nous allons le voir, ce n'est pas exclusif. Et vous savez que ce n'est pas exclusif à cause de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent concernant la connaissance et la compréhension. Ce n'est pas exclusif, mais c'est le plus important. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir toute la connaissance, tous les faits, toutes les informations qu'il y a à avoir. Vous pouvez même avoir l'intelligence. Vous savez comment tout mettre ensemble. Vous savez comment cela s'articule. Vous savez comment cela s'assemble, comment cela fonctionne ensemble, mais mes frères, si je n'ai pas la sagesse, alors nous sommes à court. Si nous n'avons pas la sagesse, mes frères, cela ne suffit pas. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Qu'est-ce que la sagesse? Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mais soyez des pratiquants de la parole, et non pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Il se regarde, s'en va, et oublie aussitôt de quel genre d'homme il était. Il est donc dit ici que nous devons être des pratiquants. Qu'est-ce que la sagesse? Frères et sœurs, la sagesse, c'est mettre en pratique. Mettre en pratique, appliquer la connaissance, appliquer la sagesse. Nous pouvons être des érudits de la Bible remplis d'informations. Nous pouvons même savoir pourquoi Dieu dit ce qu'il dit, mes frères, si nous ne le mettons pas en pratique, si nous ne l'appliquons pas, alors à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? La sagesse, C'est l'application de la connaissance et de la compréhension. La capacité de porter des jugements justes et de prendre les bonnes décisions sur la base de la connaissance et de la compréhension. Le mettre en pratique, l'appliquer de la bonne manière, voilà la sagesse. Revenons à la conduite. Les meilleurs conducteurs ne se contentent pas d'avoir les connaissances. Ils ne se contentent pas d'avoir la compréhension. Ils les appliquent réellement. Nous pouvons savoir au plus profond de notre cœur que nous sommes censés comprendre qu'un panneau stop signifie s'arrêter. Et nous comprenons pourquoi, car c'est ainsi que les gens traversent les carrefours en toute sécurité. Mais lorsque nous arrivons réellement au panneau stop, nous arrêtons-nous ou faisons-nous un arrêt glissé? Peut-être suis-je le seul coupable de cela. Ah, il n'y a personne. Personne ne peut me voir. Ça n'a pas d'importance. Mettons-nous correctement en pratique nos connaissances et notre compréhension? Si ce n'est pas le cas, prenons simplement cet exemple de circulation, on peut le faire 100 fois. 99 fois, tout ira bien. Mais cette fois-là, mes frères, cette fois-là où l'on n'applique pas correctement nos connaissances et notre compréhension, on va se faire prendre. On va se faire avoir. Ce policier, je ne l'ai tout simplement pas vu, mais devinez quoi? Il vous a vu. Ou c'est juste la force de l'habitude. Vous êtes distrait. Vous faites un arrêt glissé. Je n'ai tout simplement pas vu l'autre voiture. Je ne l'ai pas vu. Vous avez causé un accident. Mes frères, la sagesse consiste à mettre en pratique la connaissance et la compréhension que nous avons. La connaissance et la compréhension entrent en jeu, et vous suivez les règles. Vous appliquez cet exemple concret, mais en le transposant sur le plan spirituel. Vous faites ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu vous a dit de faire, et vous comprenez pourquoi, et vous le faites. La sagesse gère la situation sans enfreindre le principe. Il y a certains jugements et certaines décisions que nous devons prendre. Il y a certaines choses que nous devons faire. Tout n'est pas noir ou blanc. Mais la sagesse, d'une certaine manière, est la plus difficile à mettre en œuvre. C'est la plus difficile, surtout sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Restons ici dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, s'il manque de la capacité à mettre en pratique la connaissance et la compréhension que Dieu possède, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Je pourrais savoir toute la journée que je ne suis pas censé manger de porc, et je peux même comprendre pourquoi, c'est un animal impur, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain, mais comment gérer cette situation familiale quand on me présente une assiette pleine de nourriture impure? Que dois-je faire? Comment gérer cela? Comment gérer cela au restaurant lorsque le serveur arrive et que tout ce qui figure au menu du jour contient quelque chose d'impur? Comment gérer cela? Comment mettre en pratique cette connaissance et cette compréhension? Frères et sœurs, c'est là qu'intervient la sagesse. Dois-je gérer cela d'une manière qui ne soit pas offensante? Je ne mange pas de porc. Vous ne devriez pas non plus. Cela ne va pas très bien passer. Ou dois-je céder et manger quand même parce que je ne veux offenser personne? Eh bien, cela ne va pas bien se passer non plus. Petit rire, la sagesse, c'est appliquer la règle sans enfreindre le principe. La sagesse, c'est tout mettre en perspective. Continuons à lire. Voici ce qui se passe si vous ne le faites pas. Mais qu'il demande avec foi, en parlant de sagesse, en demandant à Dieu la sagesse avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée par le vent et ballottée. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Frères et sœurs, si nous n'avons pas de sagesse, nous sommes instables dans toutes nos voies. Cela peut se manifester différemment selon l'importance de la question, mais si nous n'avons pas de sagesse, nous sommes instables, dit Dieu, dans toutes nos voies. Une personne qui a l'esprit partagé ne sait pas quoi faire, silence, mes frères, ce n'est pas grave quand il s'agit de Dieu. Quoi? Ce n'est pas grave? Ce n'est pas grave si nous ne savons pas quoi faire quand il s'agit de Dieu. Devinez pourquoi? Parce que tout ce que nous avons à faire, c'est de lui demander. Père, donne-moi la sagesse. Demandez-la avec foi. Pourquoi? Parce qu'il vous la donnera. Comment appliquer cette connaissance? Comment appliquer cette compréhension? Dieu vous la donnera, mais vous ne pouvez pas demander en hésitant. Vous devez demander avec une foi totale. Dieu vous dira exactement quoi faire. Vous pouvez savoir. Vous pouvez comprendre. Mais si vous n'agissez pas, mes frères, si je n'agis pas, c'est imprudent. C'est imprudent. Cela nous amène au point le plus important que je souhaite aborder dans ce message, ou du moins l'un d'entre eux. La partie suivante présente ici le point le plus important que je souhaite aborder dans ce message. J'ai commencé par le mentionner, mais je vais le répéter. Frères et sœurs, nous avons besoin des trois. Nous avons besoin des trois. Ouvrez vos Bibles au chapitre 1 de Colossiens. Chapitre 1 de Colossiens. Nous avons besoin des trois. La connaissance, la compréhension et la sagesse. Colossiens, chapitre 1. Même maintenant, frères, nous avons besoin des trois. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi, poursuivons ici la réflexion, à l'intention de l'Église de Colosse, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous et de souhaiter que vous soyez comblés de la connaissance de sa volonté, de toute la sagesse et de toute la compréhension spirituelle. Frères et sœurs, nous avons besoin des trois, la connaissance, la compréhension et la sagesse. En fait, nous devons être remplis de connaissances et posséder toute la sagesse et la compréhension spirituelle lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu. Paul a reconnu que les frères avaient besoin des trois. C'est un tout. C'est un tout. Si l'un d'entre eux nous manque, il nous manque quelque chose. C'est comme un triangle. Les trois fonctionnent ensemble. Un triangle sans un de ses côtés n'est pas un triangle. Un triangle a trois côtés. S'il en a deux, ce n'est pas un triangle. S'il n'en a qu'un, ce n'est certainement pas un triangle. Il a besoin des trois. Revenons au chapitre 2 des Proverbes. Le chapitre 2 des Proverbes prouve et réitère simplement ce que je viens de lire dans Colossiens, ce que nous avons dit. Proverbe 2 verset 6, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Ces trois éléments, dont nous avons besoin, viennent tous de Dieu. Ils ne sont pas facultatifs. Je n'y vois aucune option. Elles sont toutes conçues, frères, pour fonctionner ensemble. La connaissance nous dit ce qui est vrai. L'intelligence nous dit pourquoi c'est important. La sagesse nous dit comment assembler le tout, comment l'appliquer. Même Dieu utilise ces trois éléments. Proverbe 3. Restons dans les proverbes. Verset 19, c'est par la sagesse que le Seigneur a fondé la terre. Il a donc établi ou fondé la terre. Pourquoi? Par la sagesse. Dieu a mis quelque chose en œuvre. Qu'a-t-il mis en œuvre? C'est par l'intelligence qu'il a établi les cieux. Par sa connaissance, les abîmes se sont ouverts et les nuages font tomber la rosée. Quelle meilleure recommandation pour la connaissance, la compréhension et la sagesse que le fait que Dieu utilise ces trois éléments pour établir cette planète sur laquelle nous marchons, qui est là depuis des millénaires. Dieu a établi tout cela en utilisant la sagesse, la connaissance et la compréhension. Quelle meilleure recommandation, frère, pour ces trois éléments que cela? Nous avons besoin des trois. Nous avons pris la conduite automobile comme exemple. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Qu'en est-il de l'argent ou des finances? La manière dont nous gérons nos finances, mes frères, est en fait un bon exemple, car elle a des implications à la fois physiques et spirituelles. Mais comment la connaissance, la sagesse et la compréhension s'appliquent-elles à l'argent? Eh bien, savoir que tout appartient à Dieu, par exemple, c'est de la connaissance. Nous le savons. Les Écritures disent que toutes choses appartiennent à Dieu. Une vache sur 1000 collines. Tout sur cette planète, cette terre, appartient à Dieu. Il nous en donne simplement une part. C'est de la connaissance. Nous devons le savoir. Nous devons également savoir que Dieu attend de nous que nous donnions la dîme. Nous donnons 10% de notre revenu brut, comme première dîme. Nous mettons de côté 10% supplémentaires pour aller à la fête. Et au cours de la troisième année de dîme, nous donnons encore 10% pour aider les pauvres et les veuves. Tout cela, c'est de la connaissance, une connaissance importante. Qu'en est-il de la compréhension? La compréhension, c'est faire le lien entre le fait que, puisque tout appartient à Dieu, nous ne devrions pas être égoïstes en ce qui concerne notre argent. De toute façon, il ne nous appartient pas. Dieu nous permet de le gérer. Il nous permet de gérer ce qui lui appartient. C'est prendre cette connaissance, la connaissance que tout appartient à Dieu, faire le lien avec la raison pour laquelle cela importe, et dire alors, je ne vais pas être égoïste, car c'est Dieu qui me l'a donné au départ. Comprendre, c'est savoir, tu vois. La première dîme, c'est ce qui nous permet de financer l'œuvre. Donc oui, la dîme, c'est la connaissance, mais faire le lien, oh, ces 10% servent à financer l'œuvre, les 10% restants me permettent d'accéder au festin pour obéir à Dieu, et la troisième dîme occasionnelle, c'est ainsi que nous prenons soin des pauvres. Sinon, que ferait-il? C'est cela, la compréhension. C'est l'application de la connaissance, excuse-moi, le lien et le fait de savoir pourquoi nous le faisons. Mais en fin de compte, frère, c'est de la sagesse. Je peux savoir toute la journée que je suis censé donner la dîme, et je peux même savoir pourquoi, oh, cela finance l'œuvre, mais si je ne le fais pas, si je vole Dieu, eh bien, je savais ce que cela signifiait, et je savais même pourquoi Dieu a dit de le faire. Mais si je vole Dieu, alors ce n'était pas sage. Je n'ai pas appliqué ce que Dieu voulait que je fasse. Mais quand nous sommes sages avec notre argent, frère, nous sommes généreux. Nous ne donnons pas à contre-cœur. Nous ne lésinons pas. Nous ne volons pas Dieu en disant, « Bon, je lui rendrai plus tard. » Nous ne faisons pas cela parce que nous comprenons et reconnaissons la sagesse d'appliquer la connaissance et la compréhension. La connaissance, la compréhension et la sagesse nous aident à gérer notre argent correctement. Nous gérons nos finances correctement. Et au fait, quand nous faisons cela sur le plan physique, mes frères, cela a de très, très, très grandes implications spirituelles. Quand nous manquons de connaissances, nous n'avons aucune idée de ce que Dieu veut que nous fassions, et nous ne pouvons pas appliquer ou comprendre ce que nous ne savons pas. Et quand nous manquons de compréhension, nous ne savons pas pourquoi il veut que nous le fassions. En effet, la connaissance est inutile. Elle ne fonctionne pas. Mais quand nous manquons de sagesse, en fin de compte, mes frères, nous sommes simplement désobéissants. Oui, nous savons ce que Dieu veut que nous fassions et même pourquoi il veut que nous le fassions. Vous savez quoi? Mais je ne le fais pas. Ce n'est pas sage. C'est de la désobéissance. Ne pas avoir de connaissance, de compréhension ou de sagesse. Ne pas avoir ces éléments, c'est comme une machine qui est cassée, une machine qui a besoin des trois. Mais si cette machine n'a pas l'un de ces trois éléments, elle ne fonctionne pas. Une voiture, elle a besoin d'une transmission et d'un moteur. Je vais juste citer trois choses, une transmission, un moteur et un jeu de pneus. Si elle n'a pas ces trois éléments, vous n'irez nulle part. Vous avez besoin des trois. Vous avez besoin du moteur. Vous avez besoin de la transmission. Vous avez besoin des pneus et des roues. Si vous n'avez pas cela, vous n'irez nulle part. Les trois sont importants. Voilà, mes frères, voilà ce que ce père, ce mon fils, voilà ce qu'il voulait. Il dit « mon fils » ici, dans Proverbe 2. C'est ce qu'il voulait que son fils comprenne. L'auditoire ici est un futur roi. C'est Salomon. Il était un futur roi. Mes frères, nous sommes des futurs rois. Nous allons régner. Pour le faire efficacement, pour régner même dans nos propres vies, c'est avant le royaume, nous devons avoir la connaissance, la compréhension et la sagesse. Nous avons besoin des trois. Lisons quelques versets supplémentaires ici. Restons ici, dans Proverbe 2, verset 6. Maintenant que nous avons établi que nous avons besoin des trois, lisons la suite en gardant cela à l'esprit. Verset 6, car c'est de l'Éternel que vient la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Il réserve une sagesse solide pour les justes. Ces mots devraient maintenant vous sauter aux yeux. Il réserve une sagesse solide pour les justes. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il garde les sentiers de la justice et préserve la voie de ses saints. Alors tu comprendras la justice, le jugement et l'équité. Oui, tout bon chemin. Quand la sagesse entrera dans ton cœur et que la connaissance sera agréable à ton âme, la discrétion te préservera, la compréhension te gardera. Frères et sœurs, ces choses agissant ensemble, elles nous préservent, nous guident et nous protègent. En fin de compte, elles nous gardent. Ce triangle de connaissance, de compréhension et de sagesse, il nous garde. Il nous garde de quoi? Il nous garde de quoi? Eh bien, la première chose dont il nous garde, c'est le péché. Sur quoi nous sommes-nous concentrés pendant ces jours saints du printemps et ce renouveau? Sur quoi nous sommes-nous concentrés? Nous nous sommes concentrés sur le fait d'éliminer le péché de nos vies. Eh bien, frères, le but est de garder le péché à l'écart. Nous nous en sommes débarrassés. Le but est de le garder à l'écart, et non de l'inviter à revenir. Ainsi, la connaissance, la sagesse et la compréhension agissent ensemble pour nous préserver du péché. Continuons notre lecture. Verset 12. Pour nous délivrer de la voie de l'homme mauvais, de l'homme qui tient des propos audacieux. Qui quitte le sentier de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres. Qui se réjouissent de faire le mal et se délecte de l'audace des méchants. Dont les voies sont tortueuses et qui s'avancent sur leur chemin. Ainsi, le but de la connaissance, de la sagesse et de la compréhension, en possédant ces trois éléments, et de nous préserver du péché. Comme cela est décrit ici, la voie de l'homme mauvais. Qu'est-ce que la voie de l'homme mauvais? Le péché. Il pêche. C'est pourquoi il est l'homme mauvais. Toutes ces choses qu'il fait, il profère des paroles de méchanceté, il s'écarte du chemin de la droiture, il marche dans les voies des ténèbres, il se réjouit de faire le mal et prend plaisir à l'audace des méchants. Ses voies, ses actions sont tortueuses et audacieuses dans leur chemin. Frères et sœurs, les voies ou les habitudes, elles se construisent au fil du temps. Elles se construisent au fil du temps. C'est pourquoi ce sont des habitudes. Ces habitudes sont mauvaises. Ce n'est pas seulement une décision. Frères et sœurs, ce n'est pas une seule décision qui nous met dans le pétrin. C'est lorsque nous continuons à prendre de mauvaises décisions. Lorsque nous continuons à pécher, bien que nous sachions mieux, nous continuons à pécher. Ce sont des décisions répétées encore et encore et encore, et c'est un schéma. Cela devient une habitude. Cela finit par devenir un mode de vie. Un mode de vie. Le péché est un mode de vie. Nous devons éviter cela à tout prix. Comment? En mettant en pratique la connaissance, la compréhension et la sagesse. C'est pourquoi cela figure dans ce chapitre. C'est le contexte. Cela nous préserve des voies de l'homme mauvais ou de la voie de l'homme mauvais. C'est un ensemble d'habitudes répétées au fil du temps qui mènent à cela. Cet homme mauvais n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Cela s'est construit habitude après habitude. Personne ne se réveille un jour en se disant « Je vais devenir un homme mauvais ». Si c'était le cas, cette personne ne lirait probablement pas les proverbes. Cela se produit petit à petit et au fil du temps. Comment la connaissance, la compréhension et la sagesse nous aident à éviter cela? Comment cela nous aide-t-il à nous en préserver? Eh bien, la connaissance nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un concept très simple, mes frères. Très simple. Comment évitons-nous le péché? Comment évitons-nous la voie de l'homme mauvais? Eh bien, la connaissance nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons ce qu'est le mal. Il est défini. Il définit le chemin. Il identifie le danger. Oh, c'est le mal. Ce n'est pas ce que Dieu dit que nous devrions faire. Où Dieu dit explicitement de ne pas faire cela. C'est cela, la connaissance. Sans la connaissance, nous ne savons même pas distinguer le bien du mal. Nous ne savons même pas que c'est le mal parce que nous ne savons pas. Eh bien, la connaissance nous aide à savoir. La compréhension nous montre pourquoi c'est mal. Pourquoi Dieu dit de ne pas faire cela? La compréhension nous aide à voir les conséquences d'une mauvaise action. Si je passe ce panneau stop, je vais me blesser. Je vais blesser quelqu'un d'autre. La compréhension nous aide à relier ces actions aux résultats. Ce n'est pas seulement abstrait. C'est juste de la connaissance. Mais en fin de compte, la sagesse consiste à prendre cette connaissance et cette compréhension et à faire le bon choix, à faire ce qu'il faut dans des situations réelles, pas en laboratoire, mais dans des situations réelles. Quand nous sommes dans la vie, que nous vaquons à nos occupations, que nous faisons ce que nous avons à faire, ou dans le feu de l'action, sous pression, que faisons-nous? La sagesse, c'est appliquer cette connaissance. 7. C'est mettre en pratique cette compréhension. Sans sagesse, cela ne sert à rien. On se laisse entraîner dans de mauvaises habitudes, même si on sait distinguer le bien du mal, même si on sait pourquoi. Mes frères, nous sommes tous passés par là. Nous avons tous failli. Nous avons tous péché, Et nous savons pourquoi. Nous savons, oh, je ne devrais pas faire cela. Je sais même pourquoi je ne devrais pas faire cela. Mais dans le feu de l'action, nous n'appliquons pas la sagesse. La connaissance montre le mauvais schéma, la compréhension explique le mauvais schéma, mais la sagesse vous aide à éviter le mauvais schéma. Prenons l'exemple d'une mauvaise attitude. Qui a déjà eu une mauvaise attitude? J'ai certainement eu une mauvaise attitude. La connaissance nous dit que la joie est un fruit de l'esprit. La joie est le contraire d'une mauvaise attitude. La connaissance nous dit que la joie est un fruit de l'esprit. La compréhension nous dit que cette joie, parce qu'elle est un fruit de l'esprit, est quelque chose que Dieu possède. Dieu veut donc que nous ayons de la joie parce qu'il en a. C'est comprendre l'importance de la joie. La joie, c'est donc cela. C'est ne pas avoir une mauvaise attitude. La compréhension, c'est que nous ne voulons pas avoir une mauvaise attitude parce que Dieu n'a pas de mauvaise attitude, et qu'il veut que nous soyons comme lui. Mais la sagesse, c'est ne pas avoir de mauvaise attitude même quand nous avons envie d'en avoir une, même quand c'est difficile. La sagesse, c'est la mettre en pratique. Quand les gens nous offensent, nous continuons à montrer de la joie. Quand nous passons une mauvaise journée, nous la limitons au minimum. Notre mauvaise attitude, nous la réprimons. Oh, restons calmes, car nous comprenons que la joie est le contraire d'une mauvaise attitude, et Dieu veut que nous ayons de la joie parce qu'il a de la joie. Mais la sagesse, c'est de mettre tout cela en pratique et de le faire. Dieu explique cela dans les Proverbes. Il veut que nous fassions ces choses comme un mode de vie, pas seulement comme une décision ponctuelle. Oui, un mode de vie, c'est une décision à la fois, mais Dieu veut que nous prenions la bonne décision à chaque fois. Allons-nous réussir à chaque fois? Non, mais Dieu veut que nous y parvenions. Dieu veut que nous prenions la bonne décision à chaque fois. Allons-nous réussir à chaque fois? Je le répète. Non, mais Dieu veut que nous y parvenions. Il le veut. Ainsi, la connaissance, la compréhension et la sagesse nous préservent du péché. J'ai évoqué une mauvaise attitude, mais, mes frères, nous connaissons tous nos faiblesses. Nous savons tous ce qui nous fait perdre notre sang-froid. Dieu veut que nous sachions de quoi il s'agit, que nous comprenions pourquoi il ne veut pas que nous agissions ainsi, et que nous nous en abstenions au final. La connaissance, la compréhension et la sagesse nous aideront à y parvenir. Eh bien, que font d'autres la connaissance, la compréhension et la sagesse? Revenons à Proverbe 2, verset 16. Nous avons entendu parler de l'homme mauvais. Que font-elles d'autres? Pour te délivrer de la femme étrangère. Nous avons donc l'homme mauvais. Maintenant, nous avons la femme étrangère. Même de l'étrangère qui flatte par ses paroles, qui abandonne le guide de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Nous devons donc nous tenir à l'écart de la voie de l'homme mauvais ainsi que de la femme étrangère. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre l'homme mauvais et la femme étrangère? Eh bien, l'homme mauvais représente le péché. La femme étrangère représente les mauvaises influences, les influences néfastes. Remarquez ce qui est dit ici, elle flatte par ses paroles, elle a un aspect émotionnel, un aspect de persuasion, un aspect d'attraction. Elle vous attire. Pensez à l'attraction, au fait d'être attiré, cette femme étrangère. Verset 18. Car sa maison mène à la mort et ses chemins mènent vers les morts. Bon, qui ferait cela? Qui marcherait vers la mort? Eh bien, quelqu'un qui s'est laissé séduire, quelqu'un qui s'est laissé entraîner là-dedans. L'homme mauvais représente le péché. La femme étrangère représente la tentation. Il y a une différence entre la tentation et le péché. Ce n'est pas la même chose. Christ n'a jamais péché, mais il a été tenté. Il a été tenté en toutes choses. Toutes les tentations auxquelles les êtres humains sont confrontés, Christ y a été confronté, mais il n'a pas péché. Voici la différence. Ce n'est pas la même chose. La tentation rend le péché attrayant. Si nous voyions tous le résultat final du péché, nous ne le commettrions pas, mais c'est la tentation qui le rend attrayant. Cette femme étrangère le rend attrayant. La tentation, c'est comment cela commence, comment cela démarre, puis cela mène finalement au péché. Jacques en parle. Christ a été tenté, mais il n'a pas péché. Je vais dire quelque chose qui pourrait paraître étrange à première vue, mais écoutez-moi jusqu'au boutique, la tentation, mes frères, peut être une bénédiction. Quoi? La tentation peut être une bénédiction. Pourquoi dis-je cela? Elle pourrait être ce signal d'alarme qui nous dit, tu sais quoi, je dois agir. Je dois mettre fin à cela avant que cela ne devienne un péché. La tentation peut attirer notre attention et c'est là qu'elle entre en jeu. La connaissance, la sagesse et la compréhension peuvent entrer en jeu, car maintenant, que se passe-t-il? Nous sommes tentés. Je suis sûr que Jésus-Christ avait un processus ou une manière d'éviter que la tentation ne devienne un péché. J'ose dire que cela passait en partie par la connaissance, la compréhension et la sagesse, et par leur mise en pratique. La connaissance, c'est la compréhension lorsqu'il s'agit de tentation. La connaissance, c'est comprendre ce qui est mal, reconnaître le péché pour ce qu'il est. C'est un péché. C'est une tentation. Je suis tenté par Satan ou par ma chair de faire cela. Je ne devrais pas le faire. C'est la connaissance de ce que Dieu dit. Sans connaissance, frère, nous ne reconnaissons pas cela comme une tentation. Nous ne le voyons pas. Cela semble simplement attrayant. Cela semble inoffensif. Dieu dit de ne pas convoiter une femme et lie cela à l'adultère. C'est de la connaissance. Si nous ne savons pas cela, nous pouvons regarder les femmes et les convoiter, et cela nous semble normal. Eh bien, non, si vous avez la connaissance, Dieu dit de ne pas faire cela. La compréhension, c'est voir au-delà de la tentation et voir où elle mène. C'est comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que nous fassions cela. C'est en saisir les conséquences. C'est voir au-delà du moment présent. La compréhension nous aide à ne pas sous-estimer la tentation. Oh, ce n'est pas si grave. Ça ne m'affectera pas. Eh bien, quand nous avons la compréhension spirituelle, nous savons que non, cela vous affectera si vous ne faites pas attention. Cela vous fera du mal. Cela vous causera du tort. Sans compréhension, par exemple, nous pouvons oublier pourquoi c'est une mauvaise idée de médire de nos frères et sœurs si nous n'avons pas cette compréhension. Nous savons que nous ne devrions pas. Mais si nous ne comprenons pas pourquoi, nous pouvons oublier que si cette autre personne apprenait que nous parlions d'elle en mal, comment se sentirait-elle? Comment cela affecterait-il ou aurait-il un impact sur la relation? Eh bien, quand on comprend cela et qu'on est tenté de révéler cette petite information sur la personne, cette anecdote croustillante, quand on en comprend l'impact, on voit au-delà du moment présent et on se dit, tu sais quoi? Je ne vais pas le faire parce que je comprends pourquoi, malgré la tentation de le faire. C'est sur le bout de ma langue. J'ai juste envie de le dire. C'est tellement croustillant. Oh mince, tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Mais finalement, mes frères, face à la tentation, il y a la sagesse. On peut avoir toute cette connaissance. Oui, on ne convoite pas les femmes, et on ne colporte pas de ragots. Je comprends pourquoi. Mais si on ne met pas cela en pratique, à quoi cela sert? La sagesse, c'est prendre la bonne décision au moment où la pression est réelle, quand les émotions sont en jeu, quand on est attiré. Pense à cette femme étrangère. Elle est tellement séduisante. Oh, j'en veux juste un peu. Oh, c'est tellement séduisant. Ça vous attire. La tentation est si forte. Et mes frères, si nous ne faisons pas preuve de sagesse, nous cédons, nous échouons et nous nous faisons happer. C'est comme être aspiré par le réacteur d'un avion. C'est terrible. Ça ne finit pas bien. Mes frères, la sagesse vous aide à éteindre l'ordinateur lorsque vous êtes tenté par la luxure. Elle vous aide à garder la bouche fermée lorsque vous êtes tenté de commérer. Je ne cite que deux exemples. Nous avons tous nos faiblesses. Mes frères, nous avons besoin des trois, la connaissance, la compréhension et la sagesse. Elles fonctionnent ensemble. Elles forment une machine bien huilée qui fonctionne à l'unisson. La connaissance révèle la tentation, la compréhension la met à nu, et la sagesse nous aide à la surmonter et à éviter le péché dès le départ. Nous serons tentés, mais nous ne sommes pas obligés de pécher. La connaissance, la compréhension et la sagesse nous aident à y parvenir. Frères et sœurs, nous devons développer ces trois éléments. Nous devons les cultiver. Nous devons les acquérir. Dieu, par sa parole et par son esprit, je compare cela à lui qui nous donne les matériaux de construction. Dieu nous donne la sagesse, nous dit le livre des Proverbes. Il nous donne la compréhension. Il nous donne la sagesse, la connaissance, la compréhension et la sagesse. Dieu nous donne tous les éléments constitutifs. Nous devons les assembler. Nous devons les acquérir. Nous devons les développer. Rappelez-vous que Proverbe 2 dit de chercher, de crier et de fouiller. J'ajouterai s'accrocher à cela. Allez-y. Allez chercher la connaissance. Allez chercher la compréhension. Recherchez la sagesse. Accordez-lui de l'importance. Non, ce n'est pas un chèque de 3 millions de dollars, mais, mes frères, c'est un trésor. Le royaume de Dieu est un trésor. Le royaume de... Laissez-moi vous poser cette question. Préférez-vous avoir le royaume de Dieu ou 3 millions de dollars? La réponse est facile. Mes frères, nous devons nous y atteler. Nous devons nous y atteler. Étudiez. Étudiez régulièrement. Cela développe la connaissance. Écoutez les sermons. Prenez des notes. Cherchez le sens des mots. Cela développe la connaissance. Nous savons ce que Dieu attend, ce qu'il veut que nous fassions et ne fassions pas. Réfléchissez profondément et consultez le ministère. Demandez conseil à des frères expérimentés. Discutez de cette connaissance. Aidez-vous et apprenez pourquoi c'est important et comment cela s'applique. Cela aide à développer la compréhension. Cela vous aide à faire les liens. Quand vous échouez, quand vous faites une erreur, repensez-y. Où ai-je fait fausse route? Où ai-je échoué? Cela renforce la compréhension. Cela établit des liens. Vous comprenez les conséquences. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à la même situation, vous serez moins enclin à la reproduire, car vous comprenez pourquoi les choses ont mal tourné. Mais mes frères, en fin de compte, nous pouvons posséder tout ce savoir et toute cette compréhension. Nous devons les mettre en pratique. Nous devons le faire. Chaque jour de votre vie, de ma vie, il y a une occasion de faire preuve de sagesse. Chaque jour, chaque jour. Je vais ouvrir ma Bible et je vais lire un verset. Je vais étudier. C'est de la sagesse. Parce que je sais que Dieu dit de le faire et je comprends pourquoi, mais je le fais réellement. Je vais prier aujourd'hui. C'est de la sagesse. Je ne vais pas me disputer avec mes frères. C'est de la sagesse. Je vais faire preuve de retenue. Je vais payer la dîme. Je vais faire mon travail. Je vais être respectueux. Je vais observer le sabbat comme il se doit. Tout cela, c'est de la sagesse, mes frères. C'est mettre en pratique ce que nous savons et ce que nous comprenons malgré les difficultés. La connaissance, mes frères, alors que nous arrivons à la fin, la connaissance, ce sont les faits. C'est le quoi? Ce que Dieu attend de nous. La compréhension, c'est pourquoi cela compte. Pourquoi Dieu veut que nous sachions ces choses? Pourquoi elles sont importantes? Et la sagesse, c'est le mettre en pratique. C'est l'appliquer. Prendre ce que Dieu attend et le faire. Au début du message, j'ai demandé, que choisiriez-vous? La connaissance, la compréhension ou la sagesse? Peut-être qu'après en avoir entendu davantage sur chacune d'elles, vous direz, « Oh, j'en préfère une à l'autre. » Eh bien, frère, Dieu ne veut pas que nous choisissions l'une d'entre elles. Dieu veut que nous choisissions les trois. C'est la meilleure option. Choisissez-les toutes. Elles sont toutes importantes. La connaissance est importante. La compréhension est importante. La sagesse est importante. Dieu ne veut pas seulement que nous sachions ce qu'elles sont, mais il veut que nous les développions, que nous développions la connaissance, la compréhension, la sagesse. Frères et sœurs, les jours des pains sans levain sont derrière nous. Combien de temps nous reste-t-il dans cette terre? Pas longtemps, pas beaucoup. Mais le temps qui nous reste, frères, nous devons le racheter. Nous devons le sauver de la perte. L'horloge tourne. Le temps, frères, presse. À chaque instant qui passe, nous nous rapprochons davantage du royaume que nous ne le serons jamais. Notre ardoise est vierge, frères. C'est maintenant le moment. Recherchez ce que Dieu vous offre. Car une vie chrétienne ne se trouve pas, frère, elle se construit.